Bonjour à tous. Peut-être vous pensez maintenant c'est moi qui vous apporte la prédication, mais ce n'est pas tout à fait correct. Aujourd'hui, nous présentons une nouveauté, une prédication à cinq voix. Cela veut dire qu'après quelques minutes, je passerai le micro à une autre personne. Notre texte d'aujourd'hui, dans l'évangile de Luc, parle de deux disciples qui se mettent en route. Ils quittent Jérusalem pour rejoindre le village d'Emmaüs. C'est une distance de seulement 12 kilomètres, mais ils sont à pied. C'est normal pour la plupart des hommes de cette époque. Un âne, voire un cheval, était le luxe. Donc les deux disciples vont à pied. Avez-vous une idée ? Où on arrive si on part d'ici, de l'église, à pied pour une marche de 12 kilomètres ? On arrive par exemple à Beaubezin, ou à Gand, ou si on marche dans l'autre direction, à Sauvagnon. Marcher jusqu'à Manteau, ça fait déjà plus que le double, presque 27 kilomètres. Donc nos deux disciples ne font pas une simple promenade après le repas pour digérer. Non, 12 kilomètres. Ça veut dire certainement 2 heures de marche au minimum, voire 3 heures et plus si on fait des pauses et s'il fait chaud, comme ici les derniers jours. En plus, à l'époque, on ne faisait pas une randonnée seulement pour des raisons sportives. Non, pour une marche de 12 kilomètres, il faut avoir une bonne raison pour se déplacer. C'est un vrai départ et il faut se préparé. On amène surtout de l'eau et quelque chose à manger. Le texte ne parle pas pourquoi ils ont quitté Jérusalem et ce qu'ils cherchent à Emmaüs. Mais les deux parlent en route. Ils s'échangent. Peut-être vous connaissez aussi ces moments. Une rando en montagne avec un copain, c'est le meilleur moment pour s'échanger. Et souvent, on parle des choses qu'on a vécues dernièrement, des choses qui nous réjouissent ou qui pèsent peut-être sur nous. En marchant, on peut tout laisser derrière nous, vider l'esprit et aller en avant. Nous deux disciples aussi. Ils parlent de tous ces événements tragiques qu'ils ont vécus et vus à Jérusalem les derniers jours. La condamnation de Jésus et sa mort à la croix. Ils sont tristes. Leurs espoirs sont brisés. Et malgré les témoignages des femmes au tombeau vide, ils ne peuvent pas croire que Jésus est vivant. Donc, ils quittent Jérusalem et ils se mettent en route. Un départ et peut-être un nouveau commencement. Un départ pour une nouvelle étape dans leur vie. Après 3 ans comme disciple de Jésus, peut-être. Tout cela est la spéculation. Nous ne le savons pas. Mais je vous invite à rester un moment sur ces pensées de rester et partir, continuer ou commencer à nouveau. Je pense que ces deux idées sont ancrées dans chaque cœur humain. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars ? Sur un côté, on veut rester, on veut s'installer dans une ville, dans une région, là où on a la famille et là où on trouve des amis. On veut être chez soi. Cela nous donne la sécurité et cela nous promet la tranquillité. L'homme aime planter sa tente quelque part pour rester et se reposer. Mais au même moment, l'homme sait qu'il ne peut pas rester pour toujours. L'évanescence et le changement sont inhérents dans notre monde. Si on regarde bien, on voit que tout change en tout moment. La nature, la société et finalement chacun entre nous. La Bible nous exhorte dans l'Épître aux Hébreux. Sur la terre, nous habitons une ville qui ne durera pas toujours, mais nous cherchons la ville qui existera plus tard. Quand nous sommes en route, nous sommes toujours appelés de quitter notre camp pour planter nos tentes ailleurs. Dans la Bible, le peuple de Dieu est toujours en mouvement. La série de prédications sur le livre de Genèse nous a bien montré les différents personnages souvent en mouvement. Abraham a quitté son pays. Joseph devait partir en Égypte. Chaque départ fait peur. D'abord peur pour Abraham ou pour Joseph, mais comme pour nous aussi. Car on quitte l'ancien, le bien connu, là où je suis bien installé, la zone de mon confort. Et quand je pars, je ne sais pas encore ce que m'attend ailleurs. L'inconnu crée un sentiment de peur et de trouble. Sur l'autre côté, un départ est nouveau, un nouveau commencement a aussi son charme. L'écrivain allemand Hermann Hesse dit dans son poème « Étape ». Lors de chaque nouvel appel de vie, le cœur doit être pris au grand départ et au recommencement. Pour se donner en tout courage et sans deuil dans d'autres et nouveaux engagements. Et à chaque début est inhérent un charme qui nous protège et nous aide à vivre. Je pense que Hermann Hesse résume ici avec grande sagesse ce qu'on connaît tous. À chaque début est inhérent un charme. Peut-être vous connaissez l'excitation et l'agitation avec un voyage. Avant un nouveau travail ou projet, ou devant une nouvelle année. L'inconnu ne fait pas seulement peur, mais l'inconnu nous stimule aussi et donne l'énergie. Un nouveau commencement a son charme et sa promesse. La promesse que quelque chose de nouveau arrive, jamais vu, jamais vécu. Le départ et le commencement nous donnent des nouvelles possibilités dans la vie. Il y a une autre histoire dans l'évangile de Luc, chapitre 9, qui parle des trois disciples en route, Pierre, Jean et Jacques. Jésus les amène sur la montagne où ils voient Jésus dans la lumière et la gloire de Dieu. Les disciples sont tellement émerveillés qu'ils veulent rester, pas quitter ce lieu. Pierre dit, « Maître, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Nous allons faire trois appris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Mais soudain, un nuage arrive et cache la lumière avec son ombre. Les disciples ne peuvent pas garder la lumière de Dieu. Ils doivent quitter la montagne et descendre dans la vallée. Là-bas, cette lumière va leur manquer. Cela nous peut arriver aussi. Chaque expérience spirituelle nous tente de garder ce moment, de conserver la situation et de se bien installer dans les circonstances, soit individuellement, soit en communauté. Pourtant, on peut garder quelque chose qu'on ne peut pas conserver. Dieu ne se laisse pas conserver. Il faut descendre de la montagne pour se remettre en route à nouveau. Dieu est le Dieu de l'Exode, le Dieu en route, le Dieu qui commence toujours à nouveau avec son peuple. En Exode 14, Dieu dit à Moïse, « Pourquoi m'appelles-tu à l'aide ?» Dis aux Israélites de se mettre en route. Et Dieu le dit aujourd'hui à nous et à son Église, « En route !» Dieu nous encourage de se mettre en route et de quitter nos habitudes pour découvrir ses promesses pour nous et pour notre Église. Dieu sait que cela nous fait peur, comme pour les Israélites qui, pendant un certain moment, on préférait de rester dans l'esclavage au lieu de se mettre en route pour gagner la liberté promise par Dieu. Dieu nous donne le courage pour les départs et les nouveaux commencements dans nos vies individuelles comme pour la vie de notre communauté. Nous ne sommes pas seuls, car Dieu est avec nous. Les deux disciples sur le chemin vers Emmaüs ont fait la même expérience. Ils ne sont pas seuls en route. Même quand ils n'ont pas encore reconnu Jésus, ils disent « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approchent. Et quand ils ont reconnu Jésus, ils se remettent à nouveau en route pour retourner à Jérusalem. Hermann Hesse disait « À chaque début est inhérent un charme ». Il avait certainement raison, mais avec Dieu, nous pouvons dire « À chaque début, Dieu est fidèlement avec nous, qui nous protège et qui nous aide à vivre ».
L'histoire des disciples d'Emmaüs est effectivement, comme vient de nous le rappeler Dirk, un nouveau commencement qui ouvre vers l'avenir. Mais en même temps, elle est donc aussi une histoire qui est là pour nous montrer que du passé jusqu'à cet avenir, en passant par le présent, eh bien, la fidélité de Dieu demeure. Et c'est le deuxième mot que nous voudrions partager avec vous ce matin à travers ce texte. La fidélité de Dieu. Cette fidélité que nous avons célébrée notamment lors des 25 ans de notre communauté. Cette fidélité à toute épreuve. Elle est l'ancre sûre et solide sur laquelle nous pouvons tous nous appuyer. Elle est cette espérance qui accompagne le chrétien de bout en bout. Elle est ce rocher sur lequel nous pouvons nous reposer au cœur de tout événement et en particulier donc au cœur de tout nouveau commencement. La fidélité de Dieu. Telle a été l'expérience des disciples d'Emmaüs. Et pourtant, rien ne leur laissait présager cela. Nous avions espéré, disent-ils, qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Ô Dieu, où est donc passée ta fidélité, semble-t-il dire. Qu'as-tu fait de tes promesses? Et on voit en lisant le texte comment Jésus va devoir les convaincre que la fidélité de Dieu est toujours là et qu'elle ne faillit jamais. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'on voit apparaître, je trouve, 2 dimensions de la fidélité de Dieu. 2 dimensions que nous sommes appelés à croire ensemble. Il y a tout d'abord ce qu'on pourrait appeler la fidélité de Dieu globale. Une fidélité de Dieu à son plan général. Dieu est fidèle à son plan pour sauver l'humanité. Et on le voit bien dans le texte. Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Et il leur montre que Dieu a accompli tout ce qu'il avait dit et tout ce qu'il avait prévu. Il leur montre que Dieu a été fidèle, qu'il a été fidèle à son projet, qu'il a été fidèle aux promesses qu'il avait faites à son peuple. Et puis en même temps, au cœur de ce grand plan pour l'humanité, nous voyons que Dieu est fidèle, je dirais, individuellement, à chacun de ses enfants, un à un. Parce que notre Dieu est un Dieu personnel, parce qu'il est un Dieu de relation, sa fidélité vient au plus proche de nous. Et j'aime tellement dans cette histoire l'attitude de Jésus qui prend le temps avec ses 2 disciples. Qui ne comprennent pas grand-chose à ce qui est en train de se passer. Mais il prend le temps. 2 disciples, pourtant insignifiants, Luc ne prend même pas la peine de les nommer. Mais Jésus les accompagne. Il cède même à leur demande d'aller plus loin. Il est fidèle dans sa relation. Oui, une fidélité à la fois large et personnelle. Et bien sûr, cette même fidélité continue encore aujourd'hui. Et je pense notamment à l'Église qui en est la bénéficiaire. Avec là encore, pour l'Église avec un grand E, cette fidélité au sens large et ces promesses tellement grandes qui lui sont faites. Le Christ a voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Quelle perspective, n'est-ce pas? Et en même temps donc, une fidélité aussi pour chacun des membres particuliers de ce corps qu'est l'Église, pour chacun de nous individuellement, personnellement. Et j'en suis fermement persuadé, dit Paul, celui qui a commencé en vous, sous-entendu en chacun de vous, son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Oui, la fidélité de Dieu est une promesse à saisir. Elle est à saisir pour Eric et Yvonne qui commencent cette nouvelle aventure à Cannes. La fidélité de Dieu les accompagne. Elle est à saisir pour Alexis, Bénédicte et leurs enfants qui vont bientôt arriver parmi nous. La fidélité de Dieu les accompagne. Et puis elle est à saisir pour nous tous qui restons ici. La fidélité de Dieu nous accompagne. Elle accompagne chacun avec assurance dans ces temps toujours un peu particuliers que sont les temps de changement.
Eh oui, le changement. Quel mot, le changement. Alors parfois, rien que de changer les meubles de place dans une pièce, c'est dur. Changer de place à l'église, ouf, ça peut être contrariant. Ou autour de la table, à la maison, quand on a l'habitude d'avoir sa place, ça peut être agaçant que quelqu'un nous la prenne. Et pourtant, voici une certitude, une constante. Les choses changent, les gens changent. Et voici une question. Et moi, est-ce que j'accepte non seulement le changement, mais de changer ? Souvent, les changements ne dépendent pas de nous. Ils sont extérieurs, on va dire. Ils peuvent nous perturber, nous bousculer, nous faire perdre nos repères et aussi nous décevoir. C'est le cas des disciples sur le chemin d'Emmaüs. On lit dans le récit, les disciples ont l'air tristes. Et un peu plus loin, et nous espérions que c'était lui qui délivrerait Israël. Tristesse, déception, la crucifixion a été brutale, un choc. La fin de leur vie avec Jésus, un changement synonyme d'arrêt pour eux. Et puis, il y a aussi des changements, ni dramatiques, ni tristes, ni brutaux, mais inévitables tout de même. Les modes de vie changent, le travail change, la société change, l'économie change. Et cela peut nécessiter de l'énergie pour s'adapter, un regard neuf, ouvert, objectif. Ce qui se faisait hier est différent de ce qui se fait aujourd'hui et de ce qui se fera demain. Mais nous pouvons aussi reconnaître dans le changement une source de renouvellement, de créativité, une occasion de progresser dans l'adaptation, la souplesse et surtout la confiance en Dieu. Dieu, celui qui a une vue d'ensemble juste, celui qui connaît la finalité des choses. Alors oui, parfois le changement ou les changements sont compliqués, voire incompréhensibles. Ils ont un but que nous ne voyons pas tout de suite et parfois que nous ne voyons pas du tout. Mais là, aussi intervient notre choix de faire confiance à Dieu, de nous appuyer de toutes nos forces, comme est dit dans le parcours Alpha, de toutes nos forces sur la fidélité et la sagesse de Dieu. Alors, si un certain nombre de changements ne dépendent pas de nous, il y a un changement pour lequel nous avons une part à prendre. C'est notre changement intérieur. C'est-à-dire le changement de mes pensées, de mes raisonnements, ma façon de voir, ma mentalité, en fait, mon être intérieur. Et cette part, notre part, c'est celle de décider de laisser Dieu nous transformer, transformer nos raisonnements parfois en kilosant, c'est un peu lourd parfois, de laisser Dieu oxygéner nos pensées. Et comme nous dit Éphésiens 4, dans le verset 23, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente nos pensées. Alors c'est sûr, la décision de changer est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Et dans Romains 12, au verset 2, nous lisons « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. » pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et pour revenir à nos deux disciples sur leur chemin, ils ont écouté Jésus. Et plus que cela, ils ont laissé les paroles de Jésus agir en eux. La parole de Jésus, c'est une parole de vie. Et il en a résulté un changement, une transformation de leur tristesse en joie et l'envie de partage. puisqu'ils sont retournés tout de suite à Jérusalem. 12 kilomètres à pied, comme a dit Dirk. C'est pas une petite balade digestive, ça. Hein, c'est beaucoup plus. Ils avaient hâte de raconter à leurs compagnons ce qu'ils avaient vécu. Alors oui, Dieu lui-même veut agir dans les coulisses de notre être intérieur pour que nous pensions, agissions plus comme lui. C'est une transformation positive, hein ? Elle est constructive et en plus, elle réjouit Dieu. Alors j'ai lu que le grincement est parfois incontournable dans l'action de transformation. Il faut le savoir, il faut l'accepter, mais ne doit pas empêcher cette étape. Et comme tout changement ne s'enclenche pas d'un claquement de doigts, il nous faut parfois du temps. Beaucoup de temps, un peu de temps, ça dépend de chacun. Alors pour Yvonne et Eric, comme pour Bénédicte et Alexis, c'est un temps de changement. Pour nous, Église Libre de Pau, nous allons vivre en changement. Nous entrons aussi dans un temps de transition. Et pour chacun, c'est aussi une occasion, une opportunité de vivre, comme Florian l'a dit, la fidélité de Dieu. Notre Dieu sait aussi de quoi nous avons besoin dans nos temps de changement, que ce soit au niveau personnel ou au niveau de la communauté. Mais depuis le commencement, celui qui est l'encourageur par excellence, le Saint-Esprit, est là et il est le meilleur pour nous encourager. Alors, si nous aussi, nous devenions des encourageurs pour les autres.
L'encouragement, mais comment ? Comment on peut encourager ? À la question, que faut-il pour dire une parole à propos, une parole qui encourage ? J'ai répondu, savoir écouter, avoir de l'empathie, accueillir ce que dit mon interlocuteur, et parfois lire entre les lignes pour deviner les vrais messages, parce que certaines choses ne sont pas révélées d'emblée. En tout cas, éviter d'être superficiel, comme questionner par politesse, par habitude, sans vraiment rechercher un dialogue. Par exemple, quand on se croise, on se dit toujours « bonjour, ça va ?» Et bien souvent, on n'a pas forcément envie d'entamer un dialogue, on veut juste saluer la personne et pas aller plus loin. Mais parfois, on a vraiment envie aussi de savoir si ça va réellement. Jésus, lui, il va beaucoup plus loin quand il veut communiquer une parole qui encourage. Il est, puis il dit. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs sont désespérés. Ce Jésus de Nazareth, un prophète qui agissait et parlait avec puissance, a été mis à mort. Ils avaient espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais voilà déjà 3 jours qu'il est mort, crucifié comme un vulgaire malfaiteur. Certainement, ils ne le reverront plus. Jésus, qui connaît leur tristesse, s'approche d'eux. Face à leur ignorance, il les enseigne et leur donne les moyens de comprendre ce qui vient de se passer. Ils feront le chemin à l'envers dans la nuit à cause de ce qu'ils viennent d'entendre et de voir. Alors, bien sûr, ils ne réagissent pas comme ces femmes qui s'étaient rendues au tombeau et qui s'étaient empressées de tout raconter parce que les anges leur avaient dit « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent des paroles de Jésus et crurent. Non, les disciples sont plus réticents. Mais tout de même, les paroles de Jésus les pénètrent comme un feu dans leur cœur. Ces paroles leur font du bien. Et même si le jour baisse et le soir approche, il est ressuscité. Ces paroles sont vraies, il faut les partager. Pourquoi les paroles de Jésus ont un tel impact sur les disciples ? Que leur dit-il de si extraordinaire ? Ils avaient déjà entendu les Écritures, les disciples. les paroles de Jésus sont inspirées par l'amour pour les disciples et s'adressent vraiment à leur malaise, à leur désespoir. Jésus va s'approcher d'eux, pas seulement avec une parole, mais d'abord dans une attitude. Jésus aime ses disciples. Hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé, leur dira-t-il. Néanmoins, il s'approche d'eux et fait route avec eux. Il sait sur quoi porte leur discussion. Et il n'est pas déçu de leur incompréhension des événements qui viennent de se produire. Il les aime et vient vers eux. Jésus est motivé par le bien-être de ses disciples. Il veut leur redonner espoir, les restaurer. Que faut-il leur dire pour qu'ils ne restent pas avec leur déception? Il les questionne. De quoi discutez-vous en marchant? Que s'est-il passé à Jérusalem? Les disciples peuvent librement exprimer la cause de leur malaise. Jésus s'intéresse à eux. Et enfin, Jésus parle et les rassure. Le Messie devait souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire. Il reprend les Écritures depuis Moïse et leur explique tout ce qui sera porté à lui. Les disciples ne sont pas indifférents. Ils ressentent comme un feu dans leur cœur. Et quand ils le reconnurent, ils pouvaient attester de sa résurrection. Ils avaient espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Ils ne doutent plus, ils croient. Jésus vient à la rencontre de ses disciples, malgré leur incrédulité. Il écoute l'objet de leur tristesse et prononce des paroles d'espoir et d'encouragement qui impactent les disciples et les sauve. Des paroles empreintes de sentiments et d'une motivation tournée vers les disciples. Je terminerai par le témoignage d'un jeune homme quand il a prêché pour la première fois. Comme tout débutant, il était nerveux, légèrement stressé. Arrivé sur l'estrade, il perd ses moyens, bafouille, cherche ses mots. Bref, il fallait être un auditeur attentif pour saisir ce qu'il tentait d'enseigner. Quelle n'a pas été sa peur quand, à la fin du culte, un responsable de l'église s'est approché de lui. Il lui a posé les mains sur les épaules et lui a dit « Tu feras mieux la prochaine fois. » Au lieu de reproche, il l'accueille. « Tu feras mieux la prochaine fois. » La prochaine fois ? Parce que tu as une seconde chance. Tu peux recommencer. Tu feras mieux parce que je crois que tu peux dépasser tes peurs et y arriver. J'ai confiance en toi. Ce responsable ne fait aucun commentaire, ne donne aucun conseil, ce qui serait vraiment légitime. Mais il sait que ce n'est pas le moment. Il a su discerner avec sagesse les besoins présents d'encouragement de ce jeune prédicateur. Il sait qu'il était rempli de tristesse, peut-être même de honte. Mais comme il est écrit dans Éphésiens 4, 29, au contraire, il a eu des paroles empreintes de bonté qui aident à grandir dans la foi selon les besoins. Ces paroles ont fait du bien à celui qui les a entendues. On peut croire qu'elles ont eu un effet durable dans sa vie quand on considère le ministère qu'il a eu et tout ce qu'il a osé entreprendre. En effet, ce jeune prédicateur était John Stott. Alors que nous soyons en marche, comme les disciples, au balbutiement, comme pour le début de John Stott, devant un défi nouveau à relever, un changement de direction, comme pour Yvonne et Eric, Bénédicte et Alexis, nous avons tous besoin de paroles qui apaisent, de paroles encourageantes, pour continuer.
La transition est toute trouvée. Je ferai mieux la prochaine fois. Moi, ce texte, je suis un peu jaloux parce que quand je le lis, alors il y a Cléophas, vous le savez, puis il ne cite pas la personne à côté et je me dis toujours c'est moi. Et vous pouvez aussi vous y mettre. Puis je trouve que le chemin, il a l'air d'être celui de gauche, là. Ça a l'air d'être peinard. Bon, je remercie la SNCF parce que j'ai pu prendre la photo facilement. Il n'y a pas beaucoup de trains qui circulaient. Ça a été très facile. Mais moi, ma vie, c'est plutôt celle de l'autre côté, avec des aiguillages, des choix, des wagons qu'on laisse de côté, des aiguillages mal positionnés, des déraillements, des voies qu'on emprunte avec des butoirs au fond. Et je suis un peu jaloux de me dire, finalement, dans tout ça, elle est où la continuité de Dieu ? Et ce texte va nous secouer un peu tous, parce que il va développer deux points. La continuité de la parole et la continuité de la présence. Ça va faire un peu répétition, mais ce texte est tellement beau. Quand on voit Jésus qui reprend la parole calmement, il va reprendre la Genèse, il va reprendre les prophètes. Et tout ce qu'il va faire, c'est pour démontrer que tout converge vers lui, vers l'accomplissement de la parole. Alors après, on fera un exercice pratique. Vous mettrez par deux et puis chacun, vous essaierez, à travers la Genèse, d'expliquer à votre voisin. Non, mais sérieusement, vous l'avez déjà difficile à faire. Et pourtant, c'est simple, en marchant. Jésus s'offre à nous, dans ce texte, comme le prophète qui donne le sens du salut. Et il démontre son rôle central. Et si vous rebalayez la Genèse, à un moment, dans Genèse 28, vous allez voir Jacob qui un jour va se dire, mais un peu comme les disciples, oh, l'Éternel était en ce lieu et moi je ne le savais pas. Cette continuité que Jésus va souligner dans cette parole, outre entre l'Ancien Testament et le Nouveau, elle passe aussi sur trois étapes, la passion, la résurrection et la conversion au nom de Jésus. Et dans ce texte, il nous passe le relais comme on a essayé de se le passer tous ce matin au micro. Et vous, prenez-vous le relais. La continuité dans la présence de Dieu. J'ai eu la chance de traverser un peu le désert. Le désert, c'est le truc où on peut écrire en lettres capitales seul. Sauf à un moment donné, je vous dis franchement, il y a un gars qui est venu en vélo me vendre des trucs, mais bon. Le désert, vous êtes seul. Et le désert, vous laissez des pas dans le sable. Et étant seul à un moment donné, je me suis souvenu un peu de ce poème. Alors, je vais le faire à ma façon. C'est l'histoire d'un homme qui, comme moi, marche dans le désert. Et puis, à un moment, il s'arrête. Parce qu'il y a aussi un dicton marocain qu'on peut appliquer, c'est qu'on laisse des traces que quand on marche. Je vous laisse. Et donc, dans le désert, il s'arrête, il se retourne et il voit ces fameuses traces à droite. Et il décide que chaque pas représente un jour de sa vie. Et il s'en souvient. Ah, ces moments joyeux. Et il voit ces pas parallèles qui des fois se croisent, mais il voit la proximité de Dieu. Il est heureux, il voit ces moments qui se rejaillissent devant lui. Et puis il se relève un peu et puis quelle est tout d'un coup la surprise de revoir l'image de droite ? Il n'y a plus qu'une seule trace de pas. Et là, ça le refait surgir au moment de sa vie, à ses deuils, à ses angoisses. Et il se met à genoux et écrit « Mais Dieu, je t'ai donné mon cœur. Où est-ce que tu étais ?» Et Dieu lui dit « Mon fils chéri, dans tous ces moments-là, c'est moi qui te portais. » Voilà ce que c'est la continuité de la présence de Dieu. Et ce matin, quelle est notre continuité, notre engagement à nous tous ? Est-ce que c'est les directions ? Est-ce que c'est le dimanche ? C'est quoi votre continuité dans la parole et dans la présence ? Et je vais m'emparer de mes collègues, en vous lançant la continuité du commencement, assurez-la, la continuité de la fidélité, la continuité du changement. et la continuité de l'encouragement. Et on veut s'emparer de cette phrase ensemble ce matin, qu'il était notre but, d'un Corinthiens 14:3. Momentanément, celui qui prophétise parle aux hommes. On a voulu ce matin vous édifier, vous exhorter et vous consoler. Amen.